Merci de cette introduction. Bonjour à toutes et à tous. Je voudrais d'abord commencer par m'excuser parce que je viens d'avoir une information. Je vais devoir vous quitter, moi, vers 15h30. Donc, j'aurai le temps de faire l'introduction. Mais vous avez la chance, mes côtés, Hervé Lebars de la Direction générale de la modernisation de l'État sera là pour répondre aux questions. Il le fera aussi bien, sinon mieux que moi, dans la deuxième partie du débat. Ce que je voulais partager avec vous cet après-midi, c'était, si on passe à la slide suivante... C'est trois points et je me permettrai d'insister plutôt sur le troisième, donc j'irai vite sur les deux premières parties. Le premier point, c'est de voir, de montrer comment le numérique est un vrai un levier de modernisation majeur pour répondre aux défis de la modernisation de l'État en général et que c'est évidemment un levier fortement attendu par les usagers. Le deuxième point, c'est que partagerai quelques éléments de résultats ou de stratégies qui ont été définis là dans les dernières années et je voudrais principalement partager avec vous un peu la vision que nous avons sur les axes de développement de l'administration numérique pour répondre aux grandes tendances du numérique au sein de la société en général, que ce soit au niveau français ou au niveau mondial. Alors, très rapidement, le numérique s'inscrit dans évidemment l'objectif de modernisation de l'État qui, lui, doit répondre à trois injonctions qu'on peut voir paradoxales, hein, qui sont à la fois des attentes des citoyens de démarches simplifiées, plus rapides, de services supplémentaires, avec toujours chez le citoyen sa prise de conscience du consommateur. Il voit certains niveaux de qualité de service, certains types de services disponibles par ailleurs, et il attend le même niveau au niveau, évidemment, de ses relations avec l'administration. On a, au niveau du contribuable, son attente d'avoir un euro, utilisé le mieux possible dans le cadre des dépenses publiques, et puis une attente forte des agents d'amélioration de leurs conditions de travail. Et par rapport à ces trois attentes, je suis complètement persuadé que ça nous oblige, pour répondre à ces défis nouveaux, de développer le maximum d'innovation au sein de la conduite des affaires de l'action publique. Alors, cette innovation, on la déclenche avec autour de quatre leviers au sein de notre action de modernisation de l'État. Le levier de l'écoute des usagers, puisque c'est en connaissant la demande qu'on peut définir au mieux les programmes de modernisation. C'est évidemment en s'appuyant sur les agents, sur le savoir-faire, sur les idées innovantes des agents. C'est en regardant à l'extérieur, c'est tout ce qui est réseau et partenariat, c'est en regardant comment les mêmes problèmes ont été résolus par nos partenaires qu'on trouve de nouvelles voies. Mais c'est beaucoup grâce au potentiel des nouvelles technologies qui nous permet à la fois de répondre aux usagers et de trouver des marges de manœuvre financière, pour faire là où c'est possible mieux avec moins. Donc vous connaissez ce cadre. Quelques éléments de chiffres que vous connaissez. S'ils ont déjà été largement déjà débattus dans les précédentes sessions. Vous savez qu'on a 35 millions d'internautes. On a 12 millions de Français qui ont déclaré leur revenu sur Internet. 80% des démarches les plus attendues par les usagers sont aujourd'hui disponibles en ligne. Donc, il faut avoir en tête que par rapport à ce qui est le plus attendu, on est presque au bout du chemin de la logique de l'offre. Un chiffre que vous connaissez peut-être moins, c'est que une personne sur trois déménageants utilise les services en ligne permettant de déclarer en une seule fois leur changement d'adresse et changement de coordonnées à l'ensemble des administrations. Donc on est sur un taux d'usage de plus de 30%, enfin 33%, qui est quand même maintenant assez, assez important. Et puis 4 millions de comptes sur mon service public, mais Hervé y reviendra. Alors, deuxième point, on a bâti les services en ligne et l'administration numérique à partir de l'analyse des attentes des usagers et des meilleures pratiques, comme je disais tout à l'heure, de ce qui se fait ailleurs. Donc, je ne reviens pas très rapidement. On s'est inscrit cette action de développement de l'administration numérique vers les usagers dans la stratégie d'amélioration de la qualité de service, au sens large, qui était bâtie sur quatre points, qui était d'abord une action très résolue autour de l'accueil. Deuxième point, sur autour du traitement des demandes. Une fois qu'on a bien accueilli, il faut bien traiter les demandes. Ensuite, de la gestion des réclamations. Et enfin, évidemment, de la mise en place de mesures pour pouvoir savoir ce qui progresse, puisqu'on ne pilote et on ne gouverne que ce qu'on est capable de mesurer. Et si je l'applique à l'administration numérique, donc sur l'accueil, on est engagé dans un mouvement d'amélioration du portail d'accès à l'ensemble des démarches et services publics en le fusionnant avec le compte personnel de mon service public. Là aussi, je laisserai Hervé le soin de préciser. Qui vous décrira, Hervé, mon service public et sa fusion. Et je passe, excusez-moi, assez rapidement, parce que ce sera Hervé qui présentera cela tout à l'heure, à la page 13. Voilà, 14. Voilà, sur les tendances. Alors, l'environnement dans lequel on est, c'est qu'on est un environnement qui bouge beaucoup, vous le savez, mais je vais vraiment revenir sur les chiffres d'accélération de l'adoption des nouvelles technologies qui va croissant. Quand on sait que sur Internet, on est passé de 1 million d'utilisateurs à 20 millions en à peu près 13 ans, que sur l'Internet mobile, on est passé de 1 million d'utilisateurs à 20 millions, on imagine, en à peu près 5 ans, donc déjà deux fois plus vite, et que sur les réseaux sociaux, c'est en à peine 2 ans qu'en France, ce sont des chiffres de France, on est passé de 1 million à 20 millions d'utilisateurs. Donc sur les nouvelles façons de communiquer et les nouvelles technologies, on observe, c'est juste des faits, qu'on est dans une sorte d'accélération de l'adoption et de l'usage qui est déterminant. Deuxième point, c'est que justement cette accélération et ces ruptures technologiques rendent de plus en plus difficile à prédire les évolutions économiques et sociétales parce qu'elles vont extrêmement vite. On voit la vitesse, je vous donnais juste un exemple, à laquelle l'économie de la possession est en train de passer dans des économies de l'usage avec le développement des systèmes Internet de partage de voitures, de partage de biens, où on passe d'une société où on est de plus en plus en capacité de partager les biens plutôt que de les acheter. C'est des choses qui vont extrêmement vite et dont on peine à prédire la vitesse d'accélération et les changements qu'ils vont induire. Troisième élément, j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure, on a une explosion des médias sociaux et de l'importance du relationnel et des échanges, du nuage relationnel qui est autour de nous, qui va à une vitesse et qui a des implications dont on ne maîtrise pas toutes les conséquences. On sait que sur certains sujets, notamment sur le sujet de la maîtrise des données personnelles, on est parfois sur des sujets où on joue peut-être, sans le savoir, à l'apprenti sorcier, en donnant toutes nos données personnelles, en s'ouvrant dans les données sur les réseaux sociaux, sans pouvoir avoir le contrôle dans la durée de l'usage qui va pouvoir en être fait par les autres. Et le troisième et le dernier élément, c'est évidemment le développement de l'Internet mobile, puisque vous le savez, on est presque là en ce moment, d'ailleurs, dans les mois qui viennent, le basculement de la consultation par Internet par le mobile devient supérieur à la consultation par Internet sur l'ordinateur. Et avec l'avènement des tablettes, on est sur des sujets où déjà on prédit un monde après le PC. Donc on est sur des usages qui sont rapides et qui changent, de façon très forte les comportements des Français. Alors qu'est-ce que ça nous dit en termes de défis pour l'administration numérique ? Alors, on a cherché à isoler les cinq tendances qui sont les plus structurantes pour les années qui viennent dans notre mission de construction de cette administration numérique. D'abord, dans ce monde qui devient complètement hyper connecté, c'est-à-dire dans tous les sens, entre organisations, entre personnes, on est contraint, entre guillemets, ou amené à développer le dialogue, la co-création, c'est-à-dire l'innovation ouverte, puisque c'est de plus en plus comme ça que se construit l'économie de la connaissance. Donc ça, ça nous amène, pour l'administration, à développer une administration que je pourrais appeler hyper accessible. C'est le concept, excusez l'anglais, de Attawa, de Anytime, Anywhere, Any Device, c'est-à-dire je veux avoir accès à l'information quand je veux, où je veux, avec l'objet ou l'outil que je veux. Et au-delà de cette ligne et de ce défi, ça a des impacts assez énormes sur la façon dont on conçoit les services d'administration numérique, puisqu'on ne doit pas penser en termes d'outils, même d'Internet, mais bien de services, en laissant la possibilité aux usagers de l'utiliser là où ils le souhaitent. Et évidemment, deuxième défi que ce monde hyperconnecté nous amène à faire, c'est à co-construire l'administration numérique avec le plus de partenaires possible dans une logique de co-création. J'étais encore ce matin avec, dans le cadre d'une instance qu'on a créée il y a maintenant presque 9 mois, qui s'appelle l'instance nationale partenariale, qui regroupe l'ensemble des associations d'élus et les services de l'État pour développer, co-construire des visions autour du développement de l'administration numérique sur les sujets qui, des échanges numériques entre État et collectivités locales. Là. Donc, pour donner quelques exemples d'éléments qu'on a mis en place sur cet axe. Deuxième axe, ce qu'on observe sur l'économie en général, c'est qu'on on a vu dans tout un tas de secteurs économiques l'apparence de ce qu'on appelle des pure players, c'est-à-dire des nouveaux acteurs qui émergent comme ça en très peu de temps et qui ont une façon de délivrer le service et un modèle économique complètement nouveau qui perturbe des pans entiers des activités économiques. Alors évidemment, je peux citer les disques, mais aussi on commence à voir ça sur la location de voitures, sur les transports, etc. Et ces modèles nous interrogent aussi sur la façon dont on imagine la délivrance de services et nous invitent pour l'administration à réfléchir à quels sont les services qui peuvent être du coup devenir 100% numériques et qui pourraient, bousculer la façon dont on les conçoit. Vous savez qu'on a déjà des services au sein de l'administration qui sont 100% numériques. Vous connaissez par exemple le système admission post-bac. On a été un des pays dans le monde pionniers dans ces services-là, puisque dès le Minitel avec le système Ravel, on avait l'obligation, en tout cas de passer par le online, à l'époque le Minitel, pour s'inscrire à l'université. Donc je vous prends quelques exemples pour dire qu'on est déjà dans cette réalité. Et qui, évidemment, posera la question de l'accompagnement humain pour inclure les personnes qui ne seraient pas, à l'aise avec ces technologies dans ces services qui sont 100% numériques. Dans l'exemple que je citais sur l'administration post-bac, l'administration fait le postulat que les étudiants étaient à l'aise ou arriveraient à trouver un Minitel à côté d'eux. Mais évidemment, c'est moins évident sur d'autres sujets. Le troisième axe, c'est une tendance forte qu'on observe dans toutes les industries et notamment dans les industries de services auxquelles on pourrait plus facilement se comparer, nous administration, puisqu'on ne produit pas des voitures, on produit beaucoup d'informations, c'est ça notre rôle, et de la réglementation, de la régulation. C'est qu'on observe qu'il y a une tendance très forte à avoir des back-office, c'est-à-dire des systèmes de gestion, c'est-à-dire tout ce qui est sur la gestion interne de l'information qui n'utilise plus du tout le papier pour transmettre l'information entre deux personnes. Et autant le papier et le document écrit, et j'aurais du mal à dire le contraire aujourd'hui au sein de la DILA, est encore un support qui a de l'avenir pour transmettre de l'information, pour le lire et pour le diffuser au sein du grand public, autant pour la gérer de l'information, pour transmettre de l'information au sens d'avoir une production dessus. Si je veux citer les banques, déjà depuis au moins 5 ans, sur des systèmes d'information complètement dématérialisés. Et c'est donc cette administration agile qui est devant nous, avec un décloisonnement, qui vise à être total entre les différentes administrations pour s'échanger de façon dématérialisée les données utiles à la production de nos services ou de notre activité au sein de l'administration. On y est déjà bien avancé dans beaucoup de sujets, mais on voit encore beaucoup d'échanges papier pour des traitements. Et puis les deux dernières tendances sont plus, j'allais dire, informatiques, les trois premières étant plutôt sur les tendances qu'on voit en termes d'usage, c'est qu'on on voit une redistribution des systèmes d'information en séparation vraiment de plus en plus nette entre la gestion des données, la gestion des services qui mettent à disposition les données aux autres et les services qui permettent de rendre un service effectif aux usagers. Et que le défi pour l'administration, c'est vraiment de construire des systèmes d'information qui sont bâtis un peu sur ce principe-là, complètement interopérables entre eux, pour permettre de mettre à disposition des autres administrations les données que je gère. C'est la tendance de l'open data, hein, que ce soit aux administrations d'ailleurs ou à des acteurs tiers. C'est le deuxième point sur des web services, des développements de services en ligne qui permettent à des acteurs tiers de développer des services. Je vais vous donner juste un exemple. Vous savez que par exemple toutes les informations de trafic qui sont gérées par les services en Île-de-France, le service citadin, sont mises à disposition sous forme d'un service en ligne et réutilisées par de nombreuses applications pour construire des services dans les GPS, qui dans les services de navigation. Et on est vraiment dans cette mise à disposition des services d'administration pour que d'autres construisent quelque chose de encore plus de valeur ajoutée dans une deuxième phase. Et puis le troisième axe, c'est la reconnaissance en gros du numérique comme un actif stratégique, c'est-à-dire d'avoir cette conscience que sur les secteurs qui sont fortement liés à la connaissance, il y a une nécessité d'investissement dans des services numériques. Je vous donnerai juste quelques chiffres. Hein. Je m'éloigne peut-être un peu du sujet d'aujourd'hui, mais quand on regarde le pourcentage que nous dépensons dans la numérisation du savoir dans la filière éducative par rapport à ce que font nos grands partenaires, on est dans des rapports de 1 à 10. C'est vrai aussi au niveau de la santé. Et alors qu'on est justement dans des domaines qui sont, j'allais dire, très intensifs en termes d'information. Et tous les domaines qui sont très intensifs en termes d'information, la connaissance, l'enseignement, la santé, on sait qu'il y a un potentiel extrêmement fort de l'utilisation du numérique et qu'on on peut être dans certains secteurs en situation de sous-investissement. Donc c'est un engagement, j'allais dire, à réfléchir notre part, surtout dans ces périodes de disette budgétaire, à bien choisir nos axes stratégiques d'investissement dans la construction des services de demain. Voilà, j'ai été. Oui, voilà, encore 10 minutes, mais je voulais utiliser le quart d'heure qui me.